De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit : Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques : Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ à son tour quand il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses, appela un des domestiques. Il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit : C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua : Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. À travers cet évangile, qui est un évangile de la miséricorde, une parabole de la miséricorde de Dieu, dans l'évangile de la miséricorde, qui est l'évangile de saint Luc, voilà, les papes définissent l'évangile de saint Luc comme l'évangile de la miséricorde. On voit Dieu qui guérit, qui soigne, qui prend soin, qui pardonne de manière particulière. Il nous est donné, à travers cette parabole de l'évangile, qu'on a appelé le fils prodigue, le retour du fils prodigue, parce que voilà, il a dépensé, mais on aurait pu l'appeler aussi l'amour du Père miséricordieux, cette parabole. Nous avons là tout le récit biblique, toute la révélation biblique qui est exprimée d'une manière imagée dans cette parabole. Nous avons aussi toute la destinée humaine, l'histoire de notre vie, et j'allais dire le sens profond de cette année jubilaire que le pape François nous invite à vivre, être miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père, c'est le thème de cette année. Alors aujourd'hui, nous allons méditer Jésus miséricorde, Jésus la miséricorde du Père. Voilà. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Nous allons voir ça dans son étymologie, voir ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le mystère de l'Église, en lien aussi avec cette parabole de saint Luc, et enfin quelques applications contemporaines dans notre vie, dans notre société. Alors tout d'abord, le mot miséricorde, on pourrait le prendre d'une manière imagée, comme a dit un jour un chrétien, c'est quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde et il t'aide. Voilà, miséricorde. Mais en vrai, c'est très bien, c'est très imagé, ça parle très bien. Mais en réalité, et ça, c'est déjà un vrai sens, c'est pas faux, le mot miséricorde a deux racines. Voilà, a deux racines. La première est un terme hébreu, ra'amim, voilà, qui exprime l'attachement instinctif d'un être à un autre. L'attachement instinctif d'un être à un autre. Ce sentiment qu'avaient les Sémites, c'est le siège du sein maternel, les entrailles. Voilà. Ce sentiment d'attachement instinctif de quelqu'un à un autre, pris dans les entrailles. Voilà. C'est l'expression du terme miséricorde. Donc, quand Dieu est miséricordieux, il y a quelque chose d'un écho de nous dans ses entrailles et il s'attache à nous d'une manière instinctive. On pourrait dire maternel. Le second terme hébreu, hesed, qui est traduit ordinairement en grec par un mot qui signifie aussi miséricorde, eleos, désigne de soi la pitié, voilà, la piété plutôt, relation qui unit deux êtres et implique une fidélité. Voilà. Une relation qui unit deux êtres, mais là c'est plus fort, qui implique une fidélité. C'est plus simplement un sentiment instinctif qui est pris aux entrailles. C'est un sentiment qui va durer, une relation entre deux êtres et une fidélité. Ce qui permet de poser au concept de miséricorde une base solide. Et oui, quand c'est instinctif, c'est premier, ça parle avec les tripes, mais est-ce que c'est durable? Tandis que c'est quand ça rentre dans une relation de fidélité, nous avons là quelque chose de profond qui va durer. Ça, c'est très intéressant. Quelque chose de profond en Dieu, dans ses entrailles, maternelles, pris de compassion, et qui va durer, voilà. Qui va unir deux êtres, lui et l'homme, lui et l'humanité, de manière durable. Voilà, ce n'est pas simplement l'écho, la miséricorde, donc d'un instinct de bonté, voilà, instinctivement, mais plutôt une bonté consciente, voulue, elle-même réponse à un devoir intérieur, une fidélité à soi-même. Je le veux consciemment et fidèlement. Et en le faisant, dirait le Seigneur, je suis fidèle à moi-même. Et nous avons, dans cette parole de l'Écriture, si nous ne sommes pas fidèles, lui restera fidèle. Parce que, comme il est le miséricordieux, il est ému aux entrailles d'un sentiment profond, viscéral, instinctif, mais aussi uni de manière stable, durable, fidèle à cela. Et en étant cela, il est fidèle aussi à lui-même. Il est le miséricordieux. S'il ne faisait pas miséricorde, il ne serait pas miséricordieux, il ne serait pas fidèle à lui-même. Ça, c'est vraiment la conception biblique de ce qu'est la miséricorde. Et nous avons cette expression de la miséricorde dans toute l'histoire du salut. Dans toute l'histoire du salut. Voyez-vous, dès que, par exemple, si nous remontons dans le livre de la Genèse, dès le péché des origines, nous avons Adam et Ève qui vont sortir du jardin. Voilà. Genre sortir de l'intimité avec Dieu. Voilà. Et de fait, le péché arrive. Domination de l'un ou l'autre. Souffrance, difficulté à vivre, convoitise, et puis mort. Jalousie avec Caïn vis-à-vis d'Abel et premier meurtre. Donc nous avons là la destruction de l'harmonie humaine dans l'homme en lui-même vis-à-vis de ses proches et aussi vis-à-vis de Dieu. Et Dieu aurait pu dire, c'est bien, je vous laisse à cela. Mais Dieu, viscéralement, est ému aux entrailles et il est fidèle à lui-même et il veut installer une base durable avec sa créature. Et ainsi, dès le début, ce que les pères de l'Église ont appelé le proto-évangile, il annonce qu'effectivement, la femme écrasera du talon la tête du serpent. C'est une annonce du salut. Et en annonçant le salut, Dieu annonce déjà sa miséricorde. Dieu annonce déjà sa miséricorde. Plus tard, le Seigneur se révélera comme celui qui est à Moïse, c'est la parole que nous avons entendue dans la première lecture aujourd'hui, et il dira aussi, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Qui parle ainsi? Le miséricordieux, qui a miséricorde de son peuple rendu à l'esclavage et il veut le libérer, il veut en prendre soin. Voilà, de manière durable. Comment on fait de manière durable quand on est miséricordieux? Ben, comme nous disions dans la définition, on contracte une relation stable qui implique la fidélité. En langage biblique, ça s'appelle l'alliance. L'alliance, c'est l'expression de celui qui est miséricordieux, qui voudra faire miséricorde durablement. Et si nous sommes dans l'alliance, nous recevons sa miséricorde. Donc nous voyons que la miséricorde va se découvrir progressivement à Israël, comme le Père qui prend soin des pauvres, dont on dira dans l'Écriture, Dieu est Père des pauvres, parce qu'il est miséricordieux. Il est Père d'Israël, parce qu'il prend soin d'Israël. Et la nouvelle tradition du Magnificat nomme le terme miséricorde, parce qu'effectivement, Dieu a fait miséricorde à Israël. Et depuis le début de l'histoire de l'humanité blessée, Dieu veut faire miséricorde pour restaurer l'humanité en elle-même, les hommes vis-à-vis des autres, mais aussi avec Dieu, ultimement avec Dieu, et premièrement avec Dieu. Donc tout le cheminement biblique est un cheminement d'approfondissement de la miséricorde. Nous disions que Moïse entendait le Seigneur dire « J'ai vu la misère de mon peuple ». Donc le Seigneur met en œuvre, à travers ses prophètes, à travers les patriarches, un moyen de faire miséricorde. Et en donnant son alliance, en donnant sa loi divine, il fait œuvre de pédagogie, il fait œuvre d'engagement à la fidélité. Et donc, il contracte, il permet à ce que la miséricorde se déploie. Et c'est très important parce que recevoir la loi mosaïque, recevoir la loi, c'est recevoir l'expression de la miséricorde de Dieu. On est loin de la conception légaliste qu'on pourrait avoir aujourd'hui de la loi. Voyez, Dieu veut libérer, Dieu donne sa loi, Dieu agit dans son peuple, il fait miséricorde. Et nous avons cela dans toute l'histoire d'Israël. Dans toute l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu va expérimenter la miséricorde par des libérations, par des fidélités à des promesses données, par aussi la protection vis-à-vis des peuples assaillants qui sont bien plus nombreux, mais Israël s'appuiera sur la miséricorde de Dieu, sur sa force, et Dieu va prendre soin, va protéger. Mais il y a un moment où l'expression de la miséricorde de Dieu se fait plus forte. Et oui, Dieu est celui qui peut se mettre en colère quand l'alliance n'est pas respectée. Et pourtant, Dieu va refouler sa colère. Dieu est en justice. Dieu, en justice, a droit à se mettre en colère. Ce que j'ai fait pour toi, tu ne l'as pas respecté. Je pourrais te laisser ainsi. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ta faute et entièrement ta faute. Dieu le dit à Israël, Dieu le dit à chacune de nos vies. Et bien pourtant, Dieu se retourne contre lui-même. Dieu fait miséricorde. À chaque fois que vous voyez dans l'Écriture, à un moment donné, où Dieu exprime sa justice en exprimant qu'effectivement il y a eu offense et que cette offense peut conduire à la mort, quelques lignes, quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, Dieu fait tout pour aider Israël à s'en sortir. Dieu exprime sa miséricorde. Voilà, c'est extraordinaire, mais c'est vrai. Et Dieu veut tout faire pour sortir de la misère l'homme pécheur, qui en justice mériterait d'être laissé à son péché. Mais Dieu veut lui pardonner et voit les conséquences de son péché sur cet homme. Et Dieu, au lieu d'être en colère, s'émeut plus qu'il n'est en colère, en justice. Il a pitié du blessé. Et il met tout en œuvre pour que le blessé soit guéri. Et pour que le blessé soit guéri, il invite au blessé pécheur à lui-même se retourner, à se convertir. Et le terme grec, c'est métanoïa, c'est retournement. Si Dieu se retourne alors qu'il est juste, mais n'exprime pas sa colère plus que dans ses paroles pour pouvoir amener l'homme à la miséricorde, en prenant soin, en l'invitant à se convertir, en le guérissant, en lui pardonnant, il invite l'homme à la conversion du cœur, à reconnaître son offense en vue de recevoir les guérisons. Donc l'homme, Dieu travaille le cœur de l'homme pour que lui-même se retourne. Voilà. Donc il y a un travail à faire et nous verrons que ce mouvement-là où Dieu travaille le cœur de l'homme s'exprimera aussi dans une béatitude Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et quand le Seigneur nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », nous verrons qu'il y a un lien entre la capacité à recevoir la miséricorde et la capacité à pardonner ou à être miséricordieux. L'un n'est pas déconnecté de l'autre. C'est très intéressant. Et oui, l'un n'est pas déconnecté de l'autre. Nous y viendrons. Et oui, parce que si Dieu veut faire miséricorde, il attend que le cœur s'ouvre. Et oui, il attend que le cœur s'ouvre. Il dira à Isaïe qu'il n'en a rien à faire des sacrifices. Ce qu'il veut, c'est la justice. Il veut qu'on s'occupe de la veuve et de l'orphelin et du pauvre. Voyez ? Donc il veut qu'on fasse miséricorde, que le cœur se retourne, qu'il voit là où sont les vraies offenses, en vue à ce moment-là de recevoir soi-même le pardon. Et voilà. Et Dieu, du coup, entraîne son peuple au désert. La libération, qui est une expression de la miséricorde de Dieu. On voit ça, par exemple, avec la Pâque, la sortie dans le désert d'Israël, où Dieu va donner la loi, qui sera là comme une alliance, qui a déjà été faite avec Abraham, et donnée de manière un peu plus normative avec le décalogue, avec Moïse. Dieu emmène son peuple au désert pour l'aider à se retourner, à se convertir. Et nous avons dans le livre d'Osée, il nous est dit que Dieu parle au cœur. Osée 2, verset 16, « Dieu parle au cœur de l'homme ». Ainsi, dans le livre de Michée, Israël prend conscience de la miséricorde de Dieu qui dépasse tout acte humain. Voilà, Dieu est plus grand que tout. Et Israël va même découvrir que la miséricorde de Dieu n'est pas simplement pour lui, mais pour tous. Que finalement, Israël est le peuple élu en vue de faire connaître à tous la miséricorde de Dieu. Israël est le peuple qui portait la miséricorde en vue de le faire connaître à tous. Eh oui. Il est dit dans le Siracide, dans le livre du Siracide, chapitre 18, verset 13, « La pitié de l'homme est pour son prochain, la miséricorde. Mais la pitié du Seigneur est pour toute chair et pour tout être humain. » Voilà. La révélation qu'a Israël progressivement de cet approfondissement, de cette fidélité de Dieu, deuxième sens de la miséricorde, le lien, la fidélité, de manière stable, c'est en fait pour tout homme. Dieu veut guérir, soigner, pardonner tout homme. Voilà. C'est très fort. Et puis, nous entendons ça dans un psaume, le psaume 133. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. C'est une expression de la miséricorde. Voilà. Donc, Israël chante la miséricorde. Nous reprenons dans l'Église ces psaumes-là. Et sans arrêt, nous disons « Éternel est la miséricorde du Seigneur, éternel est son amour ». Eh bien, c'est cela. Voilà. C'est cela. Donc, nous voyons que dès le début des fondements de l'humanité, Dieu s'est ému de miséricorde pour l'humanité blessée. L'humanité qui n'a pas respecté le contrat initial de l'obéissance au Créateur, est devenue indépendante et du coup a été blessée. En étant blessée, bah, continue à se blesser et se désoriente. Mais Dieu a pitié et pris de compassion et envoie par d'abord Abraham, puis les patriarches, les prophètes, toute une stratégie d'accueil de la miséricorde, de conversion du cœur. Voilà, jusqu'au moment donné, et puis il y a aussi des rites d'accueil du pardon. On a le Yom Kippour. Chaque année, le peuple d'Israël demande pardon à Dieu parce que Dieu est miséricordieux. On a toute la tradition jubilaire dans l'Ancien Testament, qui était la tradition où, un certain nombre d'années, tous les 50 ans, on remettait les compteurs à zéro. Voilà. Et qu'Israël était invité, entre eux, à se pardonner, à se remettre les compteurs à zéro, les dettes. Et quand Jésus parlera plus tard d'un créancier qui remettait les dettes, ben, ça fait écho à cela. Et on voit que nous, ça a des implications très concrètes sur la doctrine sociale, le développement durable, les dettes des pauvres. C'est savoir-faire miséricorde. Donc on voit, ça a des implications, tout ça. Donc il y a une tradition de la miséricorde dans l'Ancien Testament, qui est réelle, que Dieu peut pardonner, seul lui peut pardonner les péchés, Dieu remet les dettes, Dieu libère, Dieu guérit. Voilà, il invite à la justice sociale, à avoir un cœur contrit, à se retourner intérieurement. Et cette manifestation de la miséricorde va se faire de manière éminente dans la personne de Jésus, qui est la miséricorde fait chair, qui est l'expression excellente, éminente, absolue, de la miséricorde de Dieu. Il dira en Jean 14, 9, « Qui me voit le Père », c'est-à-dire « Qui me voit le Père miséricordieux, qui me voit dans mes paroles, mes faits et gestes, voit l'expression de la miséricorde divine. » Voilà. Et tout l'Évangile est l'expression de la miséricorde de Dieu. Voilà. Tout l'Évangile est l'expression de la miséricorde de Dieu, et ne pas comprendre un attribut de Dieu en dehors de la miséricorde, c'est certainement le dénaturer. C'est le dénaturer. Voilà. Si nous comprenons simplement la croix comme quelque chose de doloriste, ce qui est vrai, ça fait mal. Et pour le Seigneur, ça a fait très mal, infiniment mal. Mais c'est quand même l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous. Et oui, il faut tout englober dans la miséricorde. Et cette année de la miséricorde nous invite à, j'allais dire, dépoussiérer notre foi chrétienne, à la renouveler complètement dans cette vision que Dieu est miséricordieux et qu'il veut du coup que nous agissions en conscience de sa miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres. Alors je m'arrêterai maintenant sur le Christ. Le Christ miséricordieux. Tout d'abord en reprenant cette parabole que nous avons lue sur Luc. Voyez, cet enfant prodigue qui s'est perdu, c'est Adam. Cet enfant prodigue qui s'est perdu, qui a perdu l'alliance, etc., c'est l'homme contemporain. C'est aussi nous-mêmes dans nos vies. Nous avons pu connaître un moment donné où nous sommes retournés intérieurement et on nous avons dit, il faudrait peut-être que je retourne à la maison du Père. Voilà. Et si on est assez humble, on y est allé rapidement. Sinon, on a négocié pour retarder le retour. Toujours est-il, c'est que celui qui fait le chemin et, vous voyez, première chose, c'est que l'enfant prodigue résonne en justice. Dieu intègre la justice dans sa miséricorde. L'enfant prodigue dit, ouais, j'ai fait ça, donc maintenant j'ai plus droit à ça, j'ai statut inférieur, quoi. Donc je reviens comme serviteur. Dieu ne dit pas ça. Le père vient, l'enfant arrive, il veut commencer à dire ce qu'il dit, le père accourt le premier, l'embrasse. Qu'est-ce qu'il fait après? Donc il le comble de sa miséricorde déjà. Il le prend lui, on verra dans ses entrailles. Dans ses entrailles. C'est le tableau de Rembrandt que vous avez là, qui exprime bien la miséricorde. Il le prend dans ses entrailles, très bien, et il lui met un manteau. Eh bien, le manteau, dans la Bible, quand Élisée demandera le manteau d'Élie, quand la tunique du Christ ne sera pas déchirée, mais confiée, qu'est-ce que c'est ce manteau? C'est la personnalité. Dieu restaure la personnalité. Voilà. Le Seigneur restaure Adam. En miséricorde, le Seigneur veut nous restaurer, il veut nous recréer. Et pour les grands théologiens, la recréation, le pardon qui reconstruit et qui embellit, c'est plus fort que la création. C'est un miracle plus grand, nous diraient les saints docteurs. Et donc Dieu veut faire miséricorde en remettant le manteau, en restaurant Adam. Et il lui met l'anneau. L'anneau, c'est la dignité. En justice, tu as perdu ça, c'est terminé, tu es rétrogradé. Dieu redonne la dignité, totalement. Donc sa justice, il connaît le mal qui a été fait. Il a laissé libre. Mais il ne s'arrête pas là. Il est le premier à faire le pas. Saint Jean dira, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il restaure la personnalité blessée, le vêtement. Il redonne la dignité, l'anneau. Et il lui fait partager à sa joie. Et oui, il l'offre. Le banquet pour lui. Très intéressant. Ça, c'est pour le gros pécheur, pour chacun un peu nous. Mais nous sommes aussi le deuxième fils. Nous sommes celui qui fonctionne sous le mode de la justice avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai droit à ça. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai droit à ça. Lui, il n'a pas fait ça, il n'a pas droit à ça, c'est normal. Et le Seigneur lui dit, et d'ailleurs, s'il a droit à ça et que moi, je n'ai pas droit alors que j'ai fait ça, ce n'est pas juste. En termes de justice, c'est tout à fait normal si nous nous en arrêtions au mérite. Et le bon fils aîné fonctionne ainsi, il va voir son père en disant « Et qu'est-ce que tu fais là? J'ai jamais eu de banquet pour moi, la fête comme ça, alors que moi je te sers depuis longtemps. » Expression du juste qui fonctionne que sur la justice. Et Dieu lui dit quoi? Le père lui dit quoi? « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et ce qui est à moi est à toi. Alors c'est très intéressant, ça veut dire deux choses à mon sens. La première chose, tu es toujours avec moi. En gros, si tu es toujours avec moi, est-ce que tu me connais vraiment? Tu saurais que je ne suis pas simplement que juste. Je suis miséricordieux, premièrement. Deuxièmement, tu saurais que je donne, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Et qu'il ne faut pas attendre simplement d'être juste pour recevoir. Sinon, il n'y a pas beaucoup qui recevront. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il lui dit, mais ton fils que voilà, ton frère que voilà était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Très important, c'est-à-dire que Dieu invite le croyant juste à devenir un croyant qui passe à un niveau supérieur de connaissance de Dieu, miséricordieux, relation d'amour gratuite, de confiance aimante, beaucoup plus, que Dieu peut donner au-delà de nos mérites. Il est bon, il est profondément bon. Ça, c'est on a du mal à le croire. Hein. On a encore souvent du mal. On pense que Dieu va nous juger. Mais Dieu a compassion quand nous tombons dans le péché. Il a compassion. Il est plus blessé qu'il n'est en colère. Eh oui. Et il veut nous faire rentrer dans un regard de compassion. Quand il y a quelqu'un qui se blesse, quand il y a quelqu'un qui te blesse, quand il y a quelqu'un qui me blesse, moi Dieu, est-ce que tu es en mode juste, simplement, ou tu rentres dans la miséricorde? Ton frère que voilà était perdu, il est retrouvé. Ton frère qui était mort est revenu à la vie. Je m'arrête sur mort et revenu à la vie. Effectivement, l'accueil de la miséricorde, c'est l'enjeu de vivre. Parce que l'enjeu du pardon et de vivre avec Dieu, c'est quand même la vie éternelle. Sans ça, c'est le péché mortel. Donc, dans la parabole, vous avez toute la réalité dramatique, mais avec le primat de l'amour miséricordieux. Le primat de la miséricorde sur la justice. Voyez, qui n'enlève pas la justice, mais qui la parachève. Et on va voir ça, ça a des conséquences sociales sur cela. Donc Jésus, quand il parle de la miséricorde de Dieu. Un exemple éminent, c'est cette parabole. Mais ses faits et gestes sont l'expression de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Le regard qui ne condamne pas. Jésus ne juge pas la Samaritaine. Il lui dit la vérité, en justice, mais ne la juge pas. La femme adultère, il lui dira simplement « Tes péchés sont pardonnés ». Et le pape François, qui aime ses paroles, il lui dira pas simplement « Oui, mais vous avez fait ça combien de fois, dans quelle manière, etc. » Eh bien non, simplement « Tes péchés sont pardonnés et après, ne pêche plus. » Et il avait le regard abaissé pour ne pas juger. Nous y viendrons tout à l'heure, mais le Christ miséricordieux, apparu à sœur Faustine, a voulu avoir le regard abaissé, le regard qui ne juge pas. Vous voyez, c'est très important. Le regard qui ne juge pas, qui sait, qui sonde le cœur, qui invite le cœur à se retourner, mais qui ne juge pas. Donc le regard de Jésus est un regard miséricordieux. Ses paroles sont miséricordieuses. Ses faits et gestes, son attention pour les petits, les signes de compassion, il était ému devant les maladies, il était ému devant ceux qui mouraient. Il était ému aux entrailles, on dit qu'il a été profondément ému quand Lazare est mort. Voilà. Donc il y a l'émotion de Dieu en Jésus-Christ, de sa miséricorde. Et il guérit, et il soigne. Il est bouleversé de voir un peuple sans pasteur. Il dit qu'il fut saisi de pitié, de miséricorde. Il leur faut des pasteurs, il leur faut des prêtres, il leur faut des guides. Ils sont perdus. La miséricorde de Dieu. Donc elle s'exprime sans arrêt, cette miséricorde. Ça, c'est vraiment important. Et le Seigneur choisit par miséricorde. Son mode de recrutement est un mode de recrutement de miséricorde. Il dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les pécheurs. Et quand il appelle quelqu'un, il fait office de médecin pour l'aider à se relever. La mission que je te donne, elle va t'aider à te relever toi et à travers toi à en relever d'autres. Donc personne ne peut dire, j'ai reçu une vocation parce que je suis parfait, je suis bien. Certainement, j'ai reçu telle ou telle vocation parce qu'en fait, j'en ai plus besoin que les autres. Et en le recevant, je vais aider les autres. Et le pape a une grande conscience de cela puisqu'il a... Il a repris comme devise le commentaire de Bède le Vénérable sur l'appel de saint Matthieu en disant il choisissant en miséricordiant, choisissant en faisant miséricorde. C'est l'appel de Matthieu. Il a vu quelqu'un qui ne vivait pas, qui était exclu des Juifs parce qu'il était collecteur d'impôts, donc collabo. Il vivait certainement plus pour l'argent que pour Dieu. Et on ne peut pas choisir Dieu et l'argent. Et bien pourtant, le Seigneur l'a choisi pour lui faire miséricorde en l'invitant à changer. Il ne l'a pas jugé. Donc, la vocation est une expression de la miséricorde de Dieu pour la personne quelles que soient les vocations. Quand on est père, c'est pareil. Quand on est papa, maman, c'est pour devenir bien et pour faire miséricorde à ses enfants et aux autres. Et souvent, vous ferez l'expérience que ce que vous dites à vos enfants, vos arrière-enfants, vos petits-enfants, vous l'avez vécu, mais des fois, vous ne l'avez pas vécu. Vous en tirez de leçons des erreurs que vous avez faites. Et vous pouvez vous dire, bah zut, je ne me sens pas le courage de le dire, parce que je ne l'ai pas vécu. Au contraire, il faut le dire. Et c'est une expression de la miséricorde de Dieu que de l'enseigner, même si on ne l'a pas vécu. On est appelé à le vivre si on l'enseigne. Maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a fait miséricorde. Il pense que je suis meilleur que ce que j'ai été et qu'il se sert de moi pour que je me bonifie et bonifie les autres. Il se sert d'une vieille casserole. C'est super. Et là, on voit que le choix de Dieu est un choix de miséricorde. Il n'attend pas le mérite, la perfection, il veut aider. Ça, c'est vraiment très important. Donc, tout l'évangile est ainsi. Le recrutement des apôtres est un recrutement de miséricorde. Il n'y en a aucun qui est apte. Il n'y en a aucun qui est apte. Et ils sont tous pris comme ça. Le Christ va donner à Pierre le début de la papauté à quelqu'un qui a trois fois trahi publiquement. Et il va le rendre inébranlable dans la foi, publiquement. C'est une expression de miséricorde. Et il en est tellement touché qu'il en est ému. La troisième fois, il en est très ému. Donc on voit, le Christ est vraiment celui qui est miséricorde. Mais pas simplement de l'extérieur. Et ça, c'est important. Il est de l'intérieur. Le Christ est miséricorde de l'intérieur. Et je voudrais m'arrêter là-dessus. Jésus est le grand prêtre miséricordieux, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est celui qui a expérimenté la faiblesse humaine. Il est devenu en tout semblable à ses frères. Et ainsi, nous dit l'Épître aux Hébreux, il a pu être le prêtre miséricordieux, le grand prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il connaît de l'intérieur la faiblesse. Il connaît de l'intérieur la faiblesse humaine. De la chair, de la psychologie, de la fragilité à être fidèle, de l'orgueil humain. Il a été tenté dans tout son être, mais il n'a pas péché. Parce que s'il avait péché, bon, on n'aurait pas de sauveur. Il ne pourrait pas nous sauver. Mais il n'a pas péché. Mais il connaît ça de l'intérieur. Il sonde les cœurs et il en a compassion, une compassion expérimentale. Donc il est très miséricordieux. Vous voyez, quand on a été touché dans son être par quelque chose, quand c'est bien guéri, bien soigné, ben cette blessure peut être miséricordieuse puisqu'on peut sentir la blessure que l'autre a. Dieu, des fois, referme la blessure, mais des fois, il va simplement la soigner. Elle restera ouverte comme une capacité empathique à sentir les autres. Ben, le Seigneur, il est, excusez-moi du terme, bourré de blessures. C'est le flagellé, c'est le crucifié, c'est le humilié, c'est le rejeté, c'est le renié. C'est le blessé de partout, mais parfaitement saint, qui peut toujours soigner, parce qu'il est de force divine, et dans ses blessures nous trouvons la guérison, nous dit Isaïe, mais il a de l'empathie pour chaque blessure. C'est le grand prêtre miséricordieux. Il n'est pas simplement dans son discours, ses faits et gestes, ou même sa force divine, il est dans tout son être, parce que ça l'a impacté, la misère humaine. Et donc du coup, la misère du petit, il l'a pris dans ses tripes de Dieu. Ses tripes, ses entrailles, ses rahamim, voilà, c'est un hesed. Et il veut contracter fidélité avec ces personnes, et de manière particulière. Et il en est tellement touché qu'il dit, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Parce qu'il en est très ému. Voyez. Donc Jésus est vraiment quelqu'un de miséricordieux. Et il nous montre cela, et il nous invite à faire de même. Et c'est là où nous avons à imiter Dieu. Et tout à l'heure, je disais, il y a une proportion à être ouvert à la miséricorde de Dieu, si nous-mêmes, nous sommes miséricordieux. Alors évidemment, c'est toujours premier, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que on ne peut ouvrir son cœur que par une grâce divine. On ne peut aimer surnaturellement que si la charité nous est donnée. Tout à fait vrai. Ceci dit, notre liberté à pouvoir nous ouvrir y compte. Et voyez-vous, je vais prendre des exemples concrets. J'ai marqué sur une petite feuille quelques exemples. On peut être admiratif de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu quelque chose qui est né, qui est très beau, qui a été l'amitié franco-allemande. Elle est née sur des cendres et des haines, de part et d'autre. Elle est née surtout, ça c'est les blessures profondes. Et chez certains, c'est resté. Peut-être dans nos familles, vous aviez des aînés qui n'ont jamais pu pardonner à un tel ou un tel camp. Parce que la blessure était là. Et on dit de la même manière que ceux qui sont sortis des camps de concentration, ceux qui s'en sont sortis, et pas simplement sortis physiquement, mais sortis existentiellement, c'est ceux qui ont réussi à pardonner. Et ceux qui n'ont pas pardonné, ça a été une souffrance toute leur vie. Parce que celui qui n'ouvre pas son cœur à la miséricorde, ben, la miséricorde ne l'envahit pas, et il est dans la haine, et la blessure pourrie. Donc il y a profondément un lien entre la capacité à s'ouvrir librement et à accueillir. Ça, c'est vrai. Et nous voyons que de ces blessures peut germer de très belles choses. Par ces blessures, nous sommes guéris. Il y a eu une amitié franco-allemande. On peut citer le cas du prêtre, saint prêtre allemand, qui pardonnait aux bourreaux, qui confessait les criminels, ceux qui étaient jugés, et qui a fait une œuvre de pardon extraordinaire. Et quand lui, voilà, en demandant, en priant le Notre Père, voilà, Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Donc là, on a des germes de la paix. Ça, c'est très intéressant, parce que, vous voyez, les papes le disent, si on en reste, la justice est la première marche de la charité. Ce qui est absolument vrai. Si on ne donne pas à chacun ce qui lui est dû, eh bien, il n'y a rien à faire. On peut bâtir une charité désincarnée, c'est pas juste. Quand, par exemple, mon frère crie de faim, crie parce qu'il n'a pas de toit, il n'a pas d'éducation ou je ne sais quoi, ou ne connaît pas Dieu, la justice est de donner. Voilà. Après, on peut discuter, la justice est de donner. Ça, c'est premier. Mais si on en reste là, ce n'est pas le régime de la miséricorde. La miséricorde va jusqu'au pardon. Quelqu'un qui a commis des fautes, il est juste qu'il reçoive une sanction et qu'il répare sa faute au nom de l'ordre. Et Dieu fonctionne avec l'ordre. Dieu a toujours créé les choses dans l'ordre. Il met de l'ordre dans le chaos, dans la Genèse. Et il est juste. Et j'allais dire, il restaure même avec la miséricorde, mais pour remettre de l'ordre, ce qui est vrai. Mais si nous en restions là, il n'y a pas de réintégration communautaire. Il n'y a pas de remise de l'anneau, du vêtement. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Nous avons un criminel, il va en prison, il doit payer, c'est juste, faisons-le. Quand il a payé, il n'est jamais réintégré. On ne lui a pas fait miséricorde, on ne lui a jamais pardonné sa faute. Les médias se souviennent toujours, 30 ans après, de ce qu'il a fait. On n'oublie pas. Où est le cœur miséricordieux de l'homme? L'homme critique, juge, mais ne pardonne pas. Heureusement qu'il y a la miséricorde divine. Sinon, c'est plus humain. Personne n'a droit à l'erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez? Il faut à tout prix rentrer dans une logique. Justice, premier pas, très bien. Mais la miséricorde va plus loin. Tu as le droit d'être restauré dans ta dignité. Tu as le droit d'être réintégré dans la communauté, de retrouver ta place et de participer à la joie. Et même dans certains cas, les dettes seront annulées, il y aura indulgence, on efface tout. Tel pays qui ne peut pas payer, est-ce qu'on efface ou pas? Ah non, ils doivent payer. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas des dettes. Voyez, la miséricorde s'exprime pour tout le monde. Elle est justice sociale, elle est réintégration communautaire, elle est pardon familial. Elle s'exprime de cette manière-là, quand le Seigneur nous dit « Soyez miséricordieux ». Elle est profondément aussi pardon avec soi-même. Tu t'aimeras comme, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu te pardonneras. Tu te pardonneras. Il y en a qui se pardonnent jamais, parce qu'ils ont un ego démesuré. Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Enfin, d'accord, mais Dieu t'a pardonné, on avance ou pas? Ah oui, mais non, j'ai toujours fait ça, j'aurais pas dû. On n'avancera jamais, alors. Parce qu'on n'est pas parfait. Et se pardonner. Rentrer dans la miséricorde. De la même manière, accepter miséricordieusement l'autre. Quand le Seigneur dit, tu pardonneras 77 fois, 7 fois ton frère, donc c'est un chiffre infini, c'est tout le temps. On pourrait dire, mais c'est impossible. Mais on est dans l'ordre de la grâce. Le Seigneur va donner les moyens. Le Seigneur va donner les moyens pour cela. Et généralement, on fonctionne avec le joker. Je suis quelqu'un de très bien, très légaliste, très juste. Alors je te pardonne une fois, parce que ça fait bien que je te pardonne. Voilà, pour moi c'est bien, mais pas deux, hein. Pas de ça, une deuxième fois, ça ira pas. À ce moment-là, ça marche pas. Il faut rentrer dans la logique du tout le temps. Ah, mais on peut pas. Mais on a besoin de recevoir la miséricorde de Dieu pour le faire. Donc là, il y a vraiment une éducation pour nous tous, et moi le premier, à rentrer dedans. Voilà. Et cet accueil de la miséricorde, c'est vraiment important parce que tout pourra être pardonné, sauf le pardon, le péché contre l'esprit. Et une expression du péché contre l'esprit, c'est le refus d'accueillir la miséricorde. Voyez ? Et certainement, la manière dont moi-même je refuse de faire miséricorde conditionne ma capacité à accueillir la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, en confession, on peut avoir telle ou telle personne qui a du mal à pardonner. Mais on leur demande toujours, voulez-vous pardonner ? Voulez-vous vous pardonner ? Voulez-vous pardonner ? Oui, mais j'ai du mal. Oui, mais Dieu va vous aider, mais est-ce que vous le voulez ? Non, la miséricorde ne peut pas être donnée. Oui, la miséricorde peut être donnée. Et ça, c'est l'accueil. Dieu demande un oui, ne demande pas une capacité. Il va rendre capable. Ça, c'est important. Voilà, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit, le non-accueil de la miséricorde, ne sera pas remis. Matthieu 12, 31. Voilà. Et l'Église nous dit, il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à la perte éternelle. Voilà. Donc nous sommes véritablement invités à accueillir la miséricorde, à croire qu'elle est infinie, qu'elle va au-delà, il n'y a pas de quota. On peut toujours demander la miséricorde. Et c'est très important. Alors je m'arrêterai maintenant sur les œuvres de miséricorde. Nous avons encore un peu de temps. Sur les œuvres de miséricorde. Elles sont au nombre de 7. 2 × 7. Voilà, c'est une perfection. On peut les décliner. Et elles sont bien concrètes et bien spirituelles. Les deux sont bien concrètes. Et c'est important d'être bien concret. Parce que si on n'est pas bien concret, en fait, on n'est pas grand-chose. On est plutôt bon sentiment. Quand on est concret, on commence à être dans le réel. Chose très simple. Donner à manger à ceux qui ont faim. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Loger les pèlerins. Visiter les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts. Voyez, cette miséricorde va jusque du début de la vie de l'homme jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose à donner. Voilà. Il y a quelque chose à donner. Et si nous prenons conscience que Dieu donne et qu'il fait miséricorde, nous avons à donner et ne pas attendre de recevoir en retour, parce qu'en réalité, nous avons plus reçu que nous avons à donner. Nous avons toujours plus reçu que nous donnons. C'est vrai. De la même manière, les œuvres spirituelles, conseiller ceux qui doutent, enseigner ceux qui sont ignorants, traduction du compendium, réprimander les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes importunes, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voyez. Je m'arrête sur les dernières là qui peuvent étonner. Là, par exemple, conseiller ceux qui doutent, enseigner ceux qui sont ignorants, réprimander les pécheurs. À la rigueur, consoler les affligés, pardonner les offenses, on se dit, ok, on met des quotas, mais on voudrait y tendre. Mais les premières, conseiller ceux qui doutent, enseigner les ignorants, réprimander les pécheurs, on se dit, c'est pas très miséricordieux cela. Mais la miséricorde, nous avons dit, c'est une relation stable, selon la définition, qui prend au viscère les personnes. Dieu a pris dans ses tripes avec nous. Et il installe une alliance, une relation stable, durable. Si nous rentrons dans une relation stable avec Dieu, qui va nous pousser à une relation stable et pris aux entrailles pour les autres, on n'est pas individualiste. Donc on veut forcément le bien. C'est pas chacun chez soi, pas de problème. On rentre véritablement dans « je veux ton bien, attends, tu sais pas où est ton bien, tu te trompes là, faut faire le bien ». Et donc on dit le péché, on conseille ceux qui doutent, ceux qui sont ignorants. Voyez, on rentre, et là si vous voulez, la miséricorde individualiste, impeccable, consensuelle, chacun chez soi, c'est pas de la miséricorde. C'est la paix civile qui est en fait le début de la guerre. L'indifférence, c'est le début de la guerre. Et elle est froide cette paix. Parce qu'il suffit de déranger la paix de l'autre et on voit que l'autre s'énerve. Donc ça n'a jamais été la vraie bienveillance. Tandis que la miséricorde, c'est aller vers l'autre, même si je vais prendre des coups, j'y vais. C'est bon pour lui. Et j'y retourne sans arrêt, mu par l'Esprit Saint. C'est pas du tout individualiste. C'est pas du tout individualiste. Ça, c'est important. Donc nous avons dit Jésus est le visage de la miséricorde. Je vais devoir accélérer, je vous prie de m'excuser. L'Église est l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous de manière imminente. Marie, image de l'Église, est mère de miséricorde. La manière dont l'Église nous enseigne, c'est une manière de nous aider à recevoir la miséricorde. L'Église nous enseigne comme le Seigneur. Elle s'y prend pas à pas avec nous, par gradualité. Elle nous invite au retournement. L'expression par excellence sont les sacrements qui sont de la miséricorde pour nous. J'ai vu la misère de mon peuple, je descends vers lui. Je m'abaisse, je me fais chair, je me fais hostie. Je veux le restaurer dans sa dignité, lui remettre le manteau, je le baptise. Je veux lui pardonner, le prendre dans mes entrailles, je lui pardonne. Ah oui, mais il me donne une pénitence. Oui, mais ça veut dire quoi? Il te donne la capacité de restaurer ce que tu as fait. Il te donne la capacité de participer à la miséricorde. L'expression de la conversion, de la pénitence, est l'expression de notre dignité. Dieu veut qu'on participe à la miséricorde. Donc c'est très positif. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quelqu'un comme l'abbé Pierre disait que l'intuition d'Emmaüs avait été de demander des choses aux pauvres, de pas simplement leur donner. Mais tu peux m'aider. Dieu dit... Tu peux m'aider. Saint Augustin disait, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Tu peux l'aider à te sauver. Tu es digne, tu as une valeur. Et en gros, Dieu restaure la dignité, il te redonne la capacité de donner, de travailler. On n'est pas que des assistés. C'est très digne. C'est très digne cela. Donc la pénitence, c'est très bien. Très mal vu de dire ça, c'est très bien. C'est très digne. La responsabilité, c'est très digne. L'invitation à la conversion, c'est très digne. C'est une expression de la miséricorde de Dieu pour nous. Il prend au sérieux notre démarche et il veut nous aider. Et il est content qu'on le fasse. C'est vrai. C'est profondément vrai, cela. Et l'inverse, c'est être abîmé dans sa conception des choses. Je voudrais finir par la contemplation du tableau de Sœur Faustine. Vous avez derrière le Christ miséricordieux qui est apparu dans les années 30 à Sœur Faustine. La Pologne s'est fait l'ambassadrice avec le pape, le cardinal Wojtyla, qui a enclenché le procès de canonisation de Sœur Faustine. Voilà, et puis après, il l'a même béatifiée et canonisée en l'an 2000 comme la première sainte du troisième millénaire. Le pape François disait « Nous sommes rentrés dans l'ère de la miséricorde ». Il citait Sœur Faustine et Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui est la deuxième encyclique, avait dit « Dieu riche en miséricorde, dives in misericordia », confère l'épître aux Éphésiens. Sœur Faustine avait eu cette révélation du Christ miséricordieux. C'est le Christ qui donne la miséricorde. C'est le Christ qui, vous voyez, le sang et vous avez le rayon lumineux et le rayon rouge qui sortent. 2 minutes. Bon. Faites-moi miséricorde, je ne pourrai pas finir. Je vous en prie.